Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net pour nous suivre partout dans le mandat. Et on écoutait, on n'a pas tout écouté parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Donc on écoutait un groupe qui s'appelle Carte de Séjour, hein, c'était Rachid Tah, un album Ramsa, c'était, si mes souvenirs sont bons, toute fin des années 70, et c'était Douce France par Carte de Séjour. Donc Laure, tu vas nous parler de la brochure, hein, du rapport qui s'appelle Face cachée des étrangers en Europe. La face cachée des camps d'étrangers étrangères en Europe.
Alors, le livret, pas que la face cachée, mais un petit peu aussi le contexte de cette guerre aux migrants sous l'angle de la détention des migrants en Europe. Et un petit peu aussi de la campagne donc Open Access Now et des mobilisations actuelles. Alors, pour recadrer un petit peu les choses, aujourd'hui, c'est une approche exclusivement sécuritaire qui prévaut dans les politiques migratoires européennes, que ce soit avec les politiques de visa, la construction de murs, comme c'est d'ailleurs, par exemple, le cas à Calais, puisqu'il y a le projet de construire un mur qui sera d'ailleurs payé par les autorités britanniques, que ce soit les contrôles militaires aux frontières, exemple en Méditerranée, que ce soit les retours forcés, mais aussi la détention. La détention en Europe, elle est prévue par deux textes. Le premier texte, c'est une directive qui s'appelle donc la directive sur les normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile. Et le deuxième texte, qui est beaucoup plus connu, lui, c'est la directive retour, ou connue sous le nom de directive de la honte, qui a été adoptée en 2008. Donc ces deux textes prévoient très clairement l'usage à la rétention et permettent finalement cette banalisation de la détention des étrangers en Europe. Rappelons que c'est à peu près 600 000 étrangers qui sont maintenus chaque année dans les centres de rétention en Europe. 600 000 personnes qui n'ont commis absolument aucun crime, qui sont détenus juste parce qu'ils n'ont pas respecté les règles relatives à l'entrée au séjour ou n'ont pas des documents de séjour dans le pays dans lequel ils sont. Alors, ce contexte de sécuritaire et de détention des migrants est valable en Europe, bien sûr, mais est valable aussi à l'extérieur de l'Europe, puisqu'il y a une chose magnifique, c'est l'externalisation des politiques européennes qui font que de plus en plus, on a ces camps de détention qui prolifèrent à l'extérieur de l'Europe. Alors, que ce soit d'un pays à un autre ou d'un centre à l'autre, le système de détention et le fonctionnement de ces centres est complètement différent en termes de capacité, en termes de durée, en termes de conditions d'accueil, en termes d'accès aux droits. Mais si les centres sont différents les uns des autres, ils ont en tout cas en commun et très clairement un certain nombre de dysfonctionnements. Je prendrai tout d'abord l'exemple de la détention des mineurs et des demandeurs d'asile, qui est largement utilisé dans l'ensemble des pays européens, que dans certains pays, les personnes sont détenues pour des périodes illimitées, par exemple, comme c'est le cas en Grande-Bretagne. Et ces périodes illimitées, elles sont soit le fruit de la loi, soit le fruit de la pratique. Je prendrai par exemple l'exemple de la Belgique. En Belgique, il y a une période délimitée pour la détention, mais petite astuce pour prolonger indéfiniment ou presque indéfiniment cette détention, c'est de remettre les compteurs à zéro à chaque fois que la personne refuse d'embarquer. On a un nombre de centres de rétention qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Les centres sont construits comme ça de plus en plus ou sont agrandis pour accueillir de plus en plus de personnes. Mais le petit paradoxe, c'est qu'on a de plus en plus de centres de rétention, mais pas pour autant de plus en plus de personnes expulsées, ce qui pose très clairement la question du résultat et de l'utilité de ces centres. Les personnes sont détenues dans des conditions différentes, je le disais. Dans certains centres et dans certains pays, ils sont détenus sur la base de rien du tout, aucune décision administrative, aucune décision de justice. Parfois, ils n'ont absolument aucun accès à un juge, donc aucun contrôle de la privation de liberté. Pas toujours accès à une assistance juridique, ni même accès à un médecin. Ils subissent des violences policières, sont enfermés dans des conditions qui sont de plus en plus carcérales, ce qui d'ailleurs va de pair avec la criminalisation des migrants. On les désigne comme indésirables, comme des criminels qu'il faut enfermer, donc enfermons-les dans des conditions carcérales, parfois même directement dans des prisons et pas dans des lieux spécifiques. Bref, toutes ces conditions sont très clairement contraires à l'ensemble des textes, pour ne citer que la Convention européenne des droits de l'homme, mais d'autres, que pourtant les États ont signés et se vantent de soi-disant respecter. On a de manière générale une durée de détention qui est largement supérieure au temps nécessaire pour organiser l'expulsion. On a une politique migratoire et donc c'est une politique de détention qui a un coût énorme, que ce soit un coût humain, mais aussi un coût parce que coûte très clairement la construction de ces centres, l'entretien de ces centres, payer les forces de police et administratives qui sont mobilisées. Donc on a des centres qui coûtent très cher, alors que de nombreux rapports officiels concluent tous au fait que par leur nature même, les centres de détention conduisent nécessairement à la violation des droits les plus fondamentaux et que l'effectivité et l'efficacité de ces centres est largement contestable. Je le disais, plusieurs personnes, voire même en général la majorité des personnes, vont être détenues pour rien, puisqu'elles vont finir par être libérées et ne vont pas être expulsées. Et que finalement, ce dispositif ne permet pas d'enrayer la venue de migrants, puisque la nature même des hommes est qu'ils se déplacent. Et les centres de détention ne font pas baisser ces flux migratoires. Donc en fait, pour toutes ces raisons, MigrEurope et la campagne Open Access Now ont une position très claire pour la fermeture des lieux d'enfermement. Le problème, c'est que tant qu'ils existent, il faut bien faire quelque chose autour de ces centres. Et donc c'est dans ce cadre-là que la campagne Open Access Now, qui a donc été lancée en 2011 et qui est coordonnée par MigrEurope, demande un accès à l'information et un accès à ces centres inconditionnel, puisque le propre de ces lieux, c'est qu'ils doivent rester cachés. Je parle là du point de vue de l'administration, en tout cas. L'idée étant de cacher un maximum ce qu'il se passe dans ces centres. Voilà, nous, on demande à pouvoir entrer dans ces centres de manière inconditionnelle. Et c'est différent du droit de visite des détenus. Claude en parlera tout à l'heure. Mais là où ce n'est pas possible d'entrer, effectivement, on va utiliser le droit de visite des détenus, mais c'est un accès qui est extrêmement limité. On voit une personne, on est dans un parloir. Or, nous, on demande à pouvoir accéder à l'ensemble des lieux des centres, à pouvoir s'entretenir avec tous les acteurs de ce centre et surtout à pouvoir obtenir des informations complètes et cohérentes sur le fonctionnement de ces centres. Bref, on demande de la transparence et qu'il y ait un contrôle indépendant sur le fonctionnement de ces centres pour mettre fin à l'opacité. Donc voilà, donc depuis 2011, avec la campagne Open Access Now, on a mené plusieurs campagnes de mobilisation. Plusieurs visites dans les centres, dans plusieurs pays d'Europe, mais aussi au-delà. Et donc là, en ce moment, on est dans la période de mobilisation 2014, qui a débuté le 15 octobre, qui devrait normalement se terminer le 18 décembre, mais a priori, on prolongera jusqu'en janvier. En fait, le 15 octobre a été une date importante pour la campagne Open Access Now, puisqu'il y a eu plusieurs événements concomitants. Le premier est la sortie, effectivement, de ce livret, donc la face cachée des camps d'étrangers en Europe, qui est sorti donc en français, en anglais et bientôt en espagnol et en italien. Le but, en fait, de cette brochure, c'est justement de pouvoir mettre en parallèle les textes que les gouvernements devraient respecter. Et je citerai quand même la directive retour qui, même si elle est extrêmement contestable, contient quelques dispositifs positifs en termes de respect des droits et qui, en pratique, ne sont absolument pas respectés par les États. Donc l'idée, voilà, est de mettre un petit peu en parallèle les textes, la pratique que l'on a pu observer avec toutes nos visites, nos analyses, nos récoltes de témoignages, etc. Et donc finalement, de montrer les réalités de ces camps d'étrangers. Mais surtout, cette brochure, elle a pour but aussi d'être une réponse à la Commission européenne, puisqu'en fait, en mars dernier, la Commission européenne a sorti son rapport d'évaluation de la directive retour. Très concrètement, ce rapport d'évaluation de la directive retour ne fait pas du tout avancer le schmilblick. C'est 30 pages, c'est plus court que la directive elle-même. Il n'y a absolument aucune information très concrète. La Commission européenne dit elle-même qu'elle a eu des difficultés pour accéder aux informations dans les États. La méthodologie utilisée par la Commission européenne n'est pas non plus très 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 claire. Bref, du coup, avec cette brochure, on veut un petit peu faire notre contre-rapport d'évaluation de la directive retour. 15 octobre, important aussi, car nous avons mis à jour notre carte interactive qui s'appelle Close the Camp. Donc, vous pouvez trouver ça sur le site Close the Camp.
Carte extrêmement intéressante. Hein, il suffit, donc, on voit la carte. On peut prendre la carte du monde ou carte de l'Europe, on voit des petits points qui représentent les centres, enfin les lieux d'enfermement. On clique dessus, on peut agrandir la carte, on a l'adresse du lieu. Donc c'est quelque chose, et pour sa culture générale, ou si on connaît quelqu'un qui a été enfermé, moi je ne sais pas, en Suède par exemple, ça peut arriver, enfin je dis la Suède au pif, eh bien on va agrandir sur la Suède et on va trouver toutes les coordonnées des centres, des lieux d'enfermement d'étrangers, des prisons pour étrangers en Suède, et quelques informations particulières sur chaque ou chacun des centres, et ça c'est extrêmement intéressant.
C'est effectivement notre outil et notre manière à nous de lutter contre cette opacité, donner un maximum d'informations centre par centre. Donc voilà, donc période de mobilisation qui a été lancée le 15 octobre. Et depuis le 15 octobre, il y a eu plusieurs actions, donc que ce soit des visites dans plusieurs pays, par exemple en France, en Espagne, en Italie, en Belgique. Mais aussi, nous avons déposé... Et allons déposer des questions parlementaires à la Commission européenne, des réunions publiques, on en parlera, des meetings, des manifestations, bref, un certain nombre d'actions, mais aussi des actions directes avec les détenus. L'idée étant de remettre aussi au centre de tout ça la parole des détenus, que ce soit dans leurs revendications, mais aussi dans leurs témoignages des conditions d'enfermement, et donc de récolter un maximum de témoignages de détenus dans les centres. Voilà, donc l'objectif finalement de cette mobilisation et de toutes ces actions, c'est de faire prendre conscience au public de la réalité de ces lieux d'enfermement et de dénoncer finalement l'inacceptable. Donc je vous conseille vivement la lecture de cette publication, La face cachée des lieux d'enfermement, que vous pouvez trouver sur le site de Migre Europe ou sur le site Close the Camp, puisqu'en allant sur le site Close the Camp, vous avez l'onglet pour aller sur le site de la campagne Open Access Now. Je finirai juste en disant que dans le cadre de cette mobilisation, je suis allée le week-end dernier près d'Oxford, puisqu'il y avait, tu en as parlé tout à l'heure Yves, une manifestation devant le centre de rétention de Kempsfield. Donc c'est un énorme centre de rétention, c'est l'un des trois plus gros centres en Grande-Bretagne. Et donc nous avons manifesté devant le centre, mais surtout nous avons pu récolter, enfin quand je dis nous, c'est plutôt la campagne pour la fermeture du centre de Kemsfield. Nous avons pu récolter des témoignages. Il y a d'ailleurs un communiqué de presse qui est sorti ce dimanche, puisque au centre de Kemsfield, il y a actuellement une révolte des détenus, puisque certains ont été victimes de violences à l'intérieur du centre, ont été laissés dans des conditions, dans un état de santé inquiétant. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces témoignages sur la page Facebook de la campagne Open Access Now. Mais surtout, ce qui est intéressant avec le camp de Kemsfield, et c'est un des nombreux exemples, et Claude pourra en parler, c'est la mobilisation citoyenne autour de ces lieux d'enfermement. Puisque donc, par exemple, à Kemsfield, il y a une manifestation chaque semaine devant le centre de rétention.